Et voilà le grand moment attendu, mon cher Jean-Louis, dit le bombardier.
Madame la directrice, c'était un plaisir d'écouter vos précisions. J'ai écouté avec attention la pérennisation du fonds de soutien, mes collègues aussi. C'est une revendication forte de l'AMF. On est tranquille, non, quoi. Donc, monsieur le préfet, monsieur le sénateur et président du conseil départemental, monsieur le maire d'Ossillon, mesdames et messieurs les membres du corps préfectoral, mesdames et messieurs les chefs de service de l'État, mesdames et messieurs les maires et présidents d'intercommunalité, mesdames, messieurs, je vous demanderai de passer mon petit bonjour à Jean-Marc Pastor. On a un petit peu joué au rugby ensemble, il y a longtemps, hein. Et nous travaillons tous les deux sur le thème des déchets, dont tu le salueras. Je sais qu'il y est par Mons et par Beaux, et j'espère le revoir un de ces jours. Je salue aussi les élus et collaborateurs de l'AMF 81, mon cher Sylvain. Je salue vraiment le dynamisme de cette AD, que je connais, qui est sûrement la plus dynamique de notre fusion, notre travail, le travail que nous faisons avec les présidents d'AD d'Occitanie. Rien ne vaut que par comparaison, en Haute-Garonne, nous ne sommes pas à ton niveau. Nous ne faisons pas la formation. Nous ne faisons pas, nous occupons pas du centre de gestion, sinon pour s'occuper des élections. Enfin, on a beaucoup de retard à l'allumage. Je salue vraiment votre activité et je t'en félicite. Un salut amical aussi que vous transmettrez à Marie-Christine Vallas, qui a beaucoup travaillé avec nous. Et je vous transmets, parce que c'est mon devoir en tant que vice-président national, le salut amical de François Barouin. Vous savez, à l'AMF, nous sommes très, très bien et nous gommons très facilement nos différences politiques. Cependant, j'ai hâte quand même que François Barouin redevienne le président de l'AMF. Allons-y. L'Association des maires de France à laquelle nous adhérons a acquis une structure et une organisation technique tout à fait remarquables, mais force est de reconnaître que nous sommes insuffisamment écoutés. Chacun des sujets qui nous concernent est pourtant traité sur le fond, grâce à cette organisation pyramidale qui a pour socle chacun d'entre nous, pas loin de la totalité des maires et présidents de communautés de France et d'outre-mer. Les commissions fonctionnent bien, finances, éducation, ruralité, environnement, urbanisme, intercommunalité, Europe sociale, commissions qui sont composées des élus qui remontent de chaque département, dont le vôtre bien sûr. L'ordre du jour, vous allez voir où je veux en venir. L'ordre du jour des sujets est parfaitement étayé par les études techniques de nos collaborateurs qui viennent accompagner nos réflexions. Nos positions sont ensuite reprises et discutées par le Bureau national. C'est très important. J'ai l'honneur d'être président des maires ruraux. Nous sommes 30 000. François Barouin a la responsabilité, lui, des 6 000 communes de plus de 2 000 habitants. Donc, ce qui est important, c'est que nous échangeons au bureau entre maires des différentes strates. C'est trop facile de bagarrer son sujet et ensuite de ne pas faire de synthèse. L'AMF fait une synthèse qui est ce qu'elle est. Et ça permet ensuite d'insister auprès du gouvernement et des parlementaires. Les liaisons sont bonnes avec les ministres concernés, l'Assemblée nationale, le Sénat, les rapporteurs des lois en préparation, issus des groupes politiques. Bon, ils ont un peu changé. Sacré groupe politique, garant de l'unité des partis. Puis les lois sont votées, décrets d'application suivent, les serviteurs de l'État, que sont les préfets et leurs services, appliquent. Les lois sont si nombreuses, avec pour chef de file la loi de finances de chaque année, pour gérer, améliorer, contrôler le fonctionnement républicain de notre pays. Et forcer, après à nous, au plus proche des citoyens d'appliquer, certains jours comme aujourd'hui, tous ensemble d'apprécier ou pas. Ah oui, un point important. Notre temps est donné à la République, à nous élus, et avec plaisir. Tous les jours, en commission, à Albi, à Toulouse, à Paris ou ailleurs, les maires qui représentent l'AMF n'ont aucune indemnité, juste les déplacements pris en charge par les budgets départementaux ou nationaux. Nous devrions y gagner en écoute et en crédibilité avec nos sensibilités, mais hors du champ du parti politique. Et alors, content, Et non, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nuage venu de loin, il est vrai, petit à petit, nos entités communales sont réellement menacées par perte de compétences directes transférées de force, par représentation tronquée dans nos structures intercommunales. Rendez-vous compte, lorsque la communalité prend la compétence déchets ménagers et qu'elle la maintient par subsidiarité aussi bon qu'il le faisait, eh bien, cette affaire-là, j'ai perdu la phrase, je la retrouve, c'est cette intercommunalité qui désigne les délégués communaux et les fait voter en conseil communautaire. Oubliez la commune, on n'en a plus besoin. Elle n'a pas besoin de délibérer. Vous savez, la commune, ce socle de la République, eh bien, sacrifié sur l'autel du déficit budgétaire de l'État. Notre essence même, nos budgets communaux, la recette d'État amputée, voient leur marge minorée par des dépenses supplémentaires imposées par les lois. Temps périscolaire, accessibilité, indemnité, l'an dernier. Au fait, qu'avons-nous demandé? Nous sommes pourtant là, tout près de nos concitoyens, pour connaître leurs besoins, pour savoir comment améliorer leur quotidien. Avons-nous demandé une telle évolution des normes? Le regroupement obligatoire des communautés de communes, au 1er janvier 2017. La dissolution des CIVOM et des CIVU efficaces. L'organisation uniforme du temps périscolaire. Les normes uniformes d'accessibilité. La gestion obligatoire des rivières, de l'eau potable et des déchets ménagers par l'intercommunalité. Avez-vous entendu un seul de nos concitoyens vouloir fusionner avec la commune d'à côté? Et quel acharnement pour les concepteurs des lois à les défendre, à rarement vouloir les modifier, encore plus rarement à les évaluer. Vous vous rappelez au début de nos misères financières la réforme de la taxe professionnelle dont nous avons souffert sur nos budgets. L'impact sur nos communes, nous le savons. Mais y a-t-il eu un impact sur l'emploi? Nous ne savons pas, peut-être pas. Les évaluations impartiales sont rares et pourtant indispensables pour vérifier. Mais les politiques nationaux sont souvent très sûrs d'eux et l'AMF insuffisamment écoutée, on va dire pour l'instant. La réforme territoriale imposée, nous ne nions pas l'utilité des communautés de communes et urbaines, mais nous avons contesté avec force d'imposer leur regroupement et qu'il soit aussi rapide. À vrai dire, dès leur création, la généralisation des compétences, à contrario des syndicats, a privé nos conseils municipaux de liberté de choix en la matière. Dans les communautés, c'est tous ou aucun. Les accords locaux possibles, qui équilibrent urbain et rural, petites communes et villes, sont l'exception sur le territoire national, privilégiant les villes-centres au détriment de la représentation des autres. Certes, une ville-centre ne peut être majoritaire seule, mais il faut peu d'alliés pour avoir la majorité. Selon l'état d'esprit, et peut-être un peu de politique politicienne, celle que nous n'aimons pas, la gouvernance peut très bien se passer, ou bien très mal. Beaucoup d'entre nous vont devenir inaudibles. Je ne parle pas que des maires, je parle aussi des conseils municipaux. De même que beaucoup de nos conseillers municipaux. Une minorité d'entre nous, ceux qui détiendront le pouvoir, enchaînent les réunions, en seront saturés. Les directeurs généraux des services sont promus maréchaux d'empire. La liste est longue de nos syndicats, CIVOM, CIVU, parfaitement gérés, qui ont disparu. Les petits plus faibles, les grands plus forts, les villes majoritaires, nos villages sous-représentés. Je n'en veux pas à tel parlementaire de la Haute-Garonne, de la majorité, qui, surpris, pendant que nous travaillions à la CDCI, voulait sauver son CIVOM. Il était très en colère, son CIVOM, il fallait le laisser tranquille. Évidemment, il a disparu. Le CIVOM. Le parlementaire ne s'est pas représenté. Sans quoi? Mais il découvrait les méfaits de sa loi. Ça ne marchait pas. mais sa responsabilité, il est vrai, est faible pour deux raisons. La première, c'est que le rural est sous-représenté au national, je peux vous le dire. La deuxième, c'est au nom de l'unité politique, le vote est commandé. J'en reviens aux fameuses commissions dont je parlais tout à l'heure. La loi NOTRe, pour son volet local, est ainsi un sous-problème des élus nationaux, au préfet, monsieur le préfet, d'appliquer, d'argumenter et de valoriser. À nous, conscients, désolés, souvent révoltés, parfois fatalistes, de nous adapter. Dépassionnés, voilà ce qu'il arrive à beaucoup d'entre nous. Cependant, tel maire d'un village de la métropole toulousaine m'a dit « Je compte peu », c'est dans le groupe, « ma voix compte peu, mais ma commune a plus de moyens, notamment les transports. En clair, le service aux citoyens est meilleur. Et alors c'est mieux. Et sauf que toutes les villes-centres de nos communautés ne sont pas Toulouse. Sauf que nos territoires sont bien plus grands. Sauf qu'ils sont économiquement faibles. Sauf que le pouvoir fiscal de nos concitoyens est plus faible. Sauf que nos agents territoriaux sont moins nombreux, car nous ne pouvons en payer plus. Sauf que nos écoliers sont souvent moins choyés, car nous ne pouvons leur donner plus. Sauf que la baisse de la DGF est uniforme. Donc injuste, la réforme dont tu parlais, Sylvain, on n'a pas pu la faire avant. D'ailleurs, je n'ai pas vu très clair dans cette réforme, bien que l'ayant étudiée, on m'a dit que les ruraux étaient gagnants, mais jamais vu comment ils étaient gagnants. Par contre, je sais que les grandes villes n'étaient pas contentes. C'est la raison pour laquelle ça ne s'est pas fait, d'ailleurs. Non, la taille des territoires. Sur les compétences de zones de travail, pas encore à l'évaluation. Enfin, nous nous efforçons de travailler pour utiliser au mieux les pouvoirs qu'il nous reste. On va le dire comme ça. La taille des territoires, il faut être un peu positif quand même. Merci. La taille des territoires peut amener de l'équité dans le service pour les populations. Un développement économique plus rationnel, une mutualisation positive, par exemple des offices de tourisme, une meilleure efficacité des ressources humaines. Le lissage des taux d'imposition est une bonne chose et les rend plus digestes. Cependant, sur la TOM, 5 ans de lissage, c'est peut-être un peu insuffisant quand on va unifier les taux. Mais les moyens financiers de chaque ancien territoire n'évoluent pas. Et c'est précisément l'analyse de ces moyens financiers qui a guidé les orientations des anciennes communautés. Certaines qui avaient des moyens ont fait la petite enfance, d'autres qui ne les ont pas, ne l'ont pas fait, etc. Et on fusionne toutes ces communautés, évidemment, ça provoque d'énormes difficultés pour harmoniser. Donc, mes chers collègues, les choix possibles sur les compétences sont primordiaux. C'est un des messages que je voulais vous passer aujourd'hui. Et les ruraux doivent, s'il le faut, s'allier avec force. Face aux besoins légitimes des territoires, il faut favoriser, étager nos choix en raisonnant la fiscalité. Vous savez bien que c'est très compliqué, du côté des besoins, d'une part, et du côté des moyens. Par exemple, il peut y avoir une volonté dans la communauté de décompression, parfois légitime, des charges de centralité. La piscine, le sport, la culture, les loisirs, faire payer à l'ensemble des contribuables du territoire les charges qui étaient payées jusqu'à maintenant par la ville-centre. Pourquoi pas? Ou bien on peut avoir un accroissement des budgets voiries communales. Nous avons beaucoup de difficultés dans nos communes avec nos budgets d'assurer un bon entretien de la voirie. La communauté peut dire, tiens, on va mettre des sous sur la voirie, c'est une bonne chose. Mais il y aura le débat. C'est pour vous donner un exemple. Mais faire les bons choix pour la majorité des communes, cette majorité des communes n'est pas forcément la majorité des délégués. L'urbanisme et le développement rural. L'urbanisme, il y a bien longtemps que les villes le gèrent. À nous maintenant, en payant, de le faire sans pouvoir le refacturer. En allant à Luchon, faire un peu de pub en passant, il y pleuvait ce matin. Sur un écriteau, on peut lire « Un département français disparaît tous les 7 ans », ce qui est vrai. Vous en avez vu beaucoup d'usines dans nos campagnes qui viennent prendre la terre agricole, vous ? En réalité, dans nos villages, la perte d'actifs agricoles a été peu ou pas compensée par des emplois productifs. C'est tout le problème. faut cependant reconnaître des efforts des conseils départementaux, du conseil régional, mais globalement insuffisant, puisque ça ne va pas. La preuve, vous en avez vu beaucoup de nouveaux lotissements qui nous empêchent de voir le clocher des églises, vous ? Nos représentants à la commission foncière, dans la Haute-Garonne, mais ici, la CDPENAF, sont souvent à la peine. Hein. Cependant, nous travaillons beaucoup à la confection des plans locaux d'urbanisme. Le changement d'orientation est brutal. Dans ma commune, j'avais un poste, j'enlève 41 hectares pour faire le PLU. C'est pas simple. Mais ces plans d'occupation, le changement d'orientation est donc compréhensible, mais le balancier repart un peu loin. C'est brutal. Le mitage a été longtemps autorisé par l'État. Aujourd'hui, machine arrière, toute. Il faudrait mettre les rares petites zones industrielles rurales dans les centres-bourgs. Agrandir un hameau en périphérie ou en dent creuse ne gêne personne. Les exploitants locaux étant bien sûr le plus souvent d'accord. Alors pour être sérieux, il faut différencier le prélèvement foncier urbain du prélèvement rural. C'est fondamentalement différent. Il faut sortir des mots d'ordre généraux pour faire preuve de bon sens. Et en gros, il ne faut pas nous prendre pour des perdreaux de l'année. Merci. Alors on serre la vis à fond, avec une prévision sur 10-12 ans, et le partage aux enfants. L'évaluation des successions, on fait comment ? On les refait tous les 10 ans ? Et nos populations, on leur explique comment ? Bien sûr, il faut leur expliquer que les droits à l'urbanisme ne sont pas des droits acquis. Que l'intérêt général prime sur l'intérêt particulier. C'est pas facile. Ne faudrait-il pas, et c'est une autre idée, une fois les limites établies sur les cartes, projeter des zones à urbaniser plus tard, 10 ans plus tard, une autre forme de AUD, mais qu'elle ne fasse pas partie de la superficie totale constructible. Ce serait peut-être apaisant, sans aucun doute, pour les populations. Gérer, c'est prévoir. Donc, laissez-nous prévoir, avec évidemment des incertitudes, c'est-à-dire les prochains conseils municipaux. Aujourd'hui, les marges de manœuvre sont beaucoup trop réduites. Et les PLU, on les fera intercommunaux. Si ce doit être la somme de décisions communales, avec l'accord de toutes les communes, pourquoi pas ? L'AMF est d'accord pour le PLUI s'il est choisi par les communes. D'ailleurs, en réalité, quelles sont nos marges de manœuvre réelles en faisant un PLU ? Le bureau d'études nous énumère toutes les contraintes. Votre choix, c'est singulièrement rétréci. Donc j'y reviens, nous ne parvenons pas à différencier les problématiques rurales des problématiques urbaines, bien différentes cependant. On va prendre l'exemple, il y a pourtant bien des limitations de vitesse différentes sur les routes. Ben, pas sur les lois, ou rarement. Deux points particuliers que j'ai signalé sur la Haute-Garonne et que je signale ici, sur la fiscalité de l'urbanisme, c'est imprécis tout ce que nous recevons et nous ne pouvons pas identifier ni le bien ni le contribuable. Il faut y remédier, nous avons passé le message d'ailleurs. Et nous réclamons aussi des notaires, là je parle plutôt au secrétaire de mairie, l'unification des demandes de renseignement qui sont trop différentes. Je ne sais pas dans ce département, mais chaque notaire a sa demande de renseignement qui est forcément différente. Donc j'ai personnellement contacté la chambre régionale qui est d'accord pour unifier ça. C'est toujours pas mal. GEMAPI, ou la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Dès le début, d'abord l'AMF, et j'ai insisté auprès de François Barouin, qui m'a écouté, parce qu'au début, on voulait le donner aux communes. Ben, au nom des communes, on a refusé, pour de bonnes raisons. Ensuite, ce qu'on appelle la Fédération des communautés de communes a accepté, pour ces raisons. Il n'empêche que c'est une réalité. Nous pensons, et je continue à penser, que c'est une question de sécurité civile qui était à régler par l'État. Et non, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, aux communautés de communes, la responsabilité, dorénavant, et la fiscalité. Parce qu'on vous dit, vous allez le faire, mais vous n'en faites pas. Dans la boîte à outils, on vous donne la possibilité de lever un impôt supplémentaire. Là aussi, le besoin est réel, parfois énorme. Ainsi, l'État transfère aux communes, aux communautés de communes, le portage de la fiscalité nécessaire. Et une petite réflexion. Et si c'était plus généralement le fondement de la loi NOTRe ? Vous n'y pensez pas. Et pourtant, l'entretien des berges généralisées, en lieu et place des propriétaires riverains qui ne le font pas, c'est utile et c'est bien, pas trop coûteux et nécessaire. C'est réaliste. Pour les ouvrages, par contre, le coût risque d'être très élevé, surtout avec l'obligation de continuité écologique. Il faut un maximum d'aide. Pour les fleuves, que je connais bien, du moins la Garonne, l'État nous transfère un entretien délaissé, notamment les atterrissements au beau milieu, responsables de l'érosion des berges. Ce n'est pas à nous de les enlever, ces atterrissements, ni de les payer, il faut le faire. Finance et fiscalité. Une DGF juste et équitable. Tu en as parlé, Sylvain. Dans la Haute-Garonne, ça va de 70 euros par habitant à 470 euros par habitant, et ce n'est pas proportionnel à la population. Donc, c'est plus compliqué, évidemment, d'avoir une réforme de la DGF avec une masse qui baisse. En réalité, il aurait fallu faire la réforme quand la masse augmentait. Parce que quand ça baisse, personne n'est d'accord pour en donner un peu plus. Vous le comprendrez, en général, les riches ne sont pas généreux. Dans cette masse baisse, avec pour cause le déficit de l'État, et j'y reviens, avoir réduit la baisse de moitié en 2017, c'est un moindre mal. Mais après, c'est-à-dire maintenant, je reviens sur le plan général, l'échange entre l'AMF, l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, les gouvernements, s'effectue en permanence, ça marche bien, avec des satisfactions, la remontée du seuil de liste de 0 à 1000 habitants. Vous vous rappelez de ça ? Le gouvernement avait pour projet, dans toutes les communes à partir de 1 habitant, seuil du scrutin de liste pour que les oppositions soient représentées. Il y a deux cas de figure. Quand les oppositions sont de qualité, ça se passe bien. Quand malheureusement elles ne sont pas de qualité, c'est un calvaire pendant 6 ans. C'est ce qui aurait pu nous arriver. J'ai personnellement porté ce dossier. Et c'est là que je me suis rendu compte des rouages des commissions politiques. Je ne citerai pas le parlementaire qui m'a aidé, je le remercie tous les jours, parce que Pélissard m'avait confié ce dossier. Je lui ai expliqué, il a compris. Bon, on a mis le seuil à 2000 habitants. Donc jusqu'à 2000 habitants, on continuait à panacher, etc. Et un jour, il m'appelle, il me dit, tu sais, au Sénat, ça y est. Le groupe majoritaire du Sénat avait bien voulu accepter d'évoluer. Un autre jour, il m'a appelé, il me dit, tu sais, à l'Assemblée nationale, ça y est. J'ai été content. Il ne restait que le gouvernement. Gouvernement, ça a fait à moitié. Entre 0 et 2000, boum, il a pris 1000. C'est toujours ça de gagner. Tant pis pour ceux qui sont entre 1000 et 2000. Voilà un exemple. La non-obligation de prise des indemnités, ça aussi, on se l'est gagné. On n'avait rien demandé, nous. Hein. Tous les maires des petites communes m'appelaient, mais on ne peut pas. Mais il y en avait qui avaient pensé qu'il fallait le faire. Hein. Manque de peau, les budgets ne pouvaient pas et les maires ne voulaient pas. Et je vous assure, mais vraiment, que bien des points techniques évoluent favorablement, même sur les grands dossiers, même si sur les grands dossiers, nous avons des difficultés. Pour la DGF, il faut une réforme juste et équitable qui tienne compte des besoins réels de chaque commune. Une sorte de revenu minimum bien calculé. Je ne désespère pas d'y arriver. Qui tienne compte des bases de fiscalité locale, qui sont différentes, dans les contribuables ont des moyens différents, qui tiennent compte de la longueur de la voirie, des enfants, des écoles, etc., des vrais paramètres qui nous sont nécessaires pour vivre. Il est quand même utile de comparer, parce qu'on dit que la DSR compense la baisse de la DGF. Il est utile de comparer en 2017 le montant de la DGF, 30,8 milliards. Et celui de la DSR, 1,4 milliard. Pas tout à fait les mêmes montants. Hein. Donc certes, Sylvain, quand on augmente la DGF, la DSR de 14%, et on ne compense pas la DGF, et on n'y arrivera jamais. Un milliard quand même de baisse de DGF à moins, c'est bien quand même, Hollande nous l'avait promis, mais c'est pas rien. Nous l'avons subi sur nos budgets. Bon, déjà, la DGF, si elle ne baisse plus, ce sera toujours ça de prix. Par contre, la DSR peut et doit jouer beaucoup plus son rôle de solidarité rurale. C'est par là qu'on doit travailler. La DGF, on ne l'augmentera jamais, par les temps qui courent. En complément d'une juste réforme de la DGF, il y a à faire. Je ne voudrais pas vous parler ici du budget de l'Île-de-France, ni des taux d'imposition à Paris, qui sont excessivement faibles. La péréquation, on peut et on doit y travailler. Nous allons faire des propositions dans ce sens. Cependant, il nous faut de la lisibilité. Et c'est ça qui ne va pas. C'est y voir clair. Notre travail ne se limite pas à plusieurs mois. Donc je vais prendre un scénario catastrophe. Si l'étranglement des budgétaires par l'État doit se poursuivre, c'est jamais. Le redressement des comptes publics, moi je pense personnellement que c'est la première des choses qu'il faut faire. Parce que force de payer de la dette et les intérêts, évidemment, on saupoudre, puisqu'on n'a pas de sous. Donc si cet étranglement budgétaire doit se poursuivre, scénario catastrophe, nous allons bien voir. Alors il faut cesser de rabâcher l'importance de la commune, parce que je n'arrête pas de le voir, même sur nos publications. On veut garder la commune, on veut garder la commune. Oui, mais il ne faut pas faire l'inverse quand on est ailleurs. Tout prouve justement qu'on ne veut pas la garder, donc on n'y croit pas. Donc si vraiment on doit continuer à les étrangler budgétairement, mais, il va falloir proposer des formes de mutualisation, mais qui nous conviennent. Celles que nous devons proposer et non se les laisser imposer, parce qu'à force de rien proposer, on impose. Observateur neutre, notons cependant que la dette, j'y reviens, qui plombe autant notre pays et affecte autant nos ressources, à nous, aura moins augmenté le dernier gouvernement par rapport au précédent. Notons aussi que le déficit de l'État s'est réduit, mais avec notre contribution excessive de 11 milliards. La masse de la DETR, elle augmente et c'est bien. Cela reste un très bon exemple de partenariat MF-État, avec l'investissement de la Commission sur le choix des thèmes subventionnables, le taux de la subvention, l'évolution annuelle selon les priorités, une excellente gestion technique et financière par les services de l'État, notamment la rapidité de versement. Mais encore faut-il que le budget communal dégage des fonds. Et c'est de moins en moins le cas. La récupération du FCTVA sur un an et non sur deux aide les communes qui investissent. Cependant, il faut que toutes les communes en bénéficient. Nous le demandons, nous n'y arrivons pas. Et pas seulement celles qui se sont inscrites en 2009. La récupération du FCTVA sur l'entretien des bâtiments communaux à la voirie est une bonne chose, enfin, tant qu'on pourra les entretenir. L'augmentation de la péréquation était et est incompatible avec la baisse généralisée de la DGF. Comment on peut faire pour ceux qui sont contributeurs, parfois injustement. D'ailleurs, sur notre demande, l'AMF, le FPIC a été maintenu à 1 milliard en 2017. Alors, que je vous dise, nous étudions à l'AMF la possibilité d'une réforme pour mettre en place deux branches, un FPIC communal et un FPIC intercommunal. Certains collègues maires passent pour le FPIC, j'espère que c'est votre cas pour certains, de contributeur à attributeur. Moi, j'ai une commune de 900 habitants, je gagne 30 000 euros au passage. Je suis ravi. C'est mes collègues maires et moi-même qualifions cette chance de seul point positif de la loi NOTRe. Vous le croyez, vous ? Mais l'inégalité des ressources, même en faisant des communautés plus grandes, l'inégalité des ressources et des gestions des communautés de communes provoque pour certaines la prise en charge du FPIC communal ou pas, le versement ou non de la dotation de solidarité, l'attribution ou non des fonds de concours. Et peut-on parler d'égalité entre les intercommunalités actuelles ? Peut-on parler d'égalité entre les citoyens ? La réforme de la défense incendie, tu en as parlé, je crois, était pleine de bon sens. Et là, avec une réflexion locale, pour une fois, on nous laisse du temps, avec un espoir de financement croisé, la différenciation des besoins entre les centres-bourgs, l'habitat épars, les sites industriels est ici réfléchie. Que n'a-t-on fait de même pour l'accessibilité ? Sylvain Fernandez s'inquiète à juste titre de l'avenir de la poste dans nos villages. Je n'ai jamais été favorable, je vous le confie, à l'agence postale communale. Enfin, chacun son choix. Enfin, ce n'est pas un choix, c'est un pis-aller. Quand la poste s'en va, on la remplace par ce qu'on peut. Je dois vous dire que je mène dans ma commune de 900 habitants une expérience de facteur guichetier. La même personne distribue le courrier le matin et tient le bureau de poste l'après-midi. Le contact est ainsi renoué avec les habitants, c'est très positif. Je vous le recommande. Sauf ceux qui ont choisi l'agence postale communale, ça ne marchera jamais. Pour la rénovation thermique des bâtiments publics, les collectivités territoriales doivent être exemplaires. mais le coût avoisine les 7 milliards sur 3 ans, avec des aides aujourd'hui insuffisantes. Certes, il y aura un gain de consommation énergétique, c'est excellent pour l'environnement, mais ce programme doit être soutenable financièrement. Parmi les autres sujets, pas simple d'appliquer le zéro phyto. On le voit en traversant les villages, le zéro phyto. Enfin, on tâtonne, je ne sais pas vous. On brûle, on met de l'eau chaude. Le désherbant bio, ce n'est pas terrible, ça repousse bien après. C'est comme un fertilisant. Bon, c'est vraiment compliqué. On va toujours, à mon avis, un petit peu trop vite. Nous tenions à conserver dans nos mairies les demandes de cartes d'identité. C'était évident. C'était pas grand-chose, mais symbolique et tellement plus pratique pour nos administrés. Nous aurions pu et dû sécuriser, parce que c'est la sécurité, le fait de ne pas pouvoir les dupliquer et tricher, qui a généré cette affaire, mais il fallait à l'évidence beaucoup plus de points d'accès. On aurait pu mettre un seuil, 100 habitants, 200, 500, mais enfin beaucoup plus de points d'accès. Là, ça a serré la vis comme il faut. Donc pendant la négociation, qui n'a pas été simple, parce que mea culpa, du côté de l'AMF et plutôt de la direction, on a dit au début qu'on était d'accord. Après, il a fallu qu'on cravache derrière nous pour dire qu'on n'était pas. C'est plus compliqué, surtout quand les marchés sont lancés. Alors, je disais pendant la négociation, vous voyez où nous en sommes. Hein, qu'on nous laisse au moins ça, puisqu'on nous prend tous, c'est pas grand-chose. Hein. Bon, c'est perdu. En conclusion, le message positif quand même, nous ne laissons pas dépassionnés, au nom de tous ceux qui nous ont précédés. Œuvrons au mieux dans cette intercommunalité imposée. Si petite soit notre place, amenons la réflexion dans nos conseils municipaux, faisant entendre notre voix. Effectivement, le pouvoir communal s'affaiblit. C'est décidé pour raison d'État. Alors, cependant, beaucoup d'entre nous, maires, adjoints, conseillers municipaux, sont quotidiennement pompiers, gendarmes, conciliateurs, conseillers, apaiseurs, j'aime bien le terme, apaiseurs, même si la commune est petite, surtout si elle est petite. Un ministre me disait, il n'y a pas si longtemps, je ne vais pas le citer celui-là, parce que vous le connaissez, il me dit, on va mettre le seuil à 500. Vous savez, au-dessous de 500, il n'y aurait plus de communes, quoi. Peut-être à 1000 ou peut-être à 200. Mais attendez, plus la communauté de communes et plus la communauté de communes, plus la commune est petite et plus c'est important. Dans la grande commune, le maire, il a les services techniques, il a etc. Dans la petite commune, s'il n'y est pas, il n'y a personne. Dans nos communautés, imaginez la compétence vie associative. Si les communautés le prennent, grandes comme elles sont, nous avons 10, 12 associations parfois dans nos communes. Comment ils vont gérer ça? Est-ce que demain, on va remplacer nos conseillers municipaux bénévoles, vous savez, celui qui va le matin à l'école, à 7h du matin, qui manque la personne pour la garderie? On en trouve une autre, les enfants sont gardés. Quand il y a une ampoule qui ne va pas ou autre, on la change. Et mon président d'intercommunalité, je le charrie un petit peu, il me dit, mais ça va être pareil. Non, c'est pas pareil, le président d'intercommunalité, c'est l'ordonnateur. Il n'y a pas un risque demain de voir ces conseillers municipaux bénévoles qui se régalent être remplacés par des agents de l'interco. Ça n'a pas coûté le même prix. Ça ne sera peut-être pas non plus le même effet. Il n'y a peut-être pas autant de réactivité. Mais ça, je constate, en toute modestie avec mon mandat national, qu'il y a beaucoup de parisianisme dans toutes nos réflexions et toutes nos orientations. Quand même. Beaucoup de parisianisme. Simple constat. Une fois notre nombre réduit, nos prérogatives réduites, nos mandats ne susciteront pas les mêmes vocations des intéressés. On n'en voudra plus des conseils municipaux si c'est pour rien faire. Alors quand il n'y a plus de conseil municipal, on n'est pas loin de ne plus avoir de commune. La commune peut devenir le hameau, les hameaux d'aujourd'hui par rapport à la ville-centre. Les gens, ils sont heureux dans les hameaux, souvent ils les recherchent. Mais ça ne va pas faire le même effet. Je crois en la commune, si petite soit-elle. Beaucoup font semblant, y compris de mes collègues. Je leur dis quand même. Mais je ne suis pas seul, loin de là, dans chaque département. Nous nous réussissons la semaine prochaine, à Paris. Bien sûr, il faut y revenir. Le si important déficit budgétaire de l'État à plomber les orientations du précédent gouvernement. Quand on n'a pas de thunes, un préfet que j'ai bien connu, monsieur le préfet, me disait « c'est pas possible que l'État paye mon modeste salaire par emprunt à partir du mois de septembre ». Et je vous assure que ce préfet me l'a dit. Le vote sud de la Haute-Garonne, oui, mais pas celui, pas l'actuel, pas monsieur Maillot, je vous rassure. Mais je lui rappelais quand même. La contribution des collectivités locales est excessive, mais réelle. Nous avons ainsi des arguments. On a mis la main à la poche. Le vote extrême, et c'est un argument nouveau que je vais développer, croyez-moi, le vote extrême au présidentiel, dans beaucoup de zones rurales en déprise, est aussi un signal important qu'il ne faut pas que les élus nationaux négligent. Ça peut faire basculer, ça. Nous sommes donc prêts à un nouveau contrat. Nos communes sont une grande richesse sociale. À nous de savoir, avec la marge qu'il nous reste, les compétences que nous voulons établir à chaque échelon, en réclamant de l'État sa juste et constitutionnelle participation financière, et aussi qu'il nous écoute. Merci à vous de m'avoir écouté.
Merci Jean-Louis. Alors, je vais vous faire un aveu maintenant. Je n'étais pas sûr, il y a 3 jours en arrière, que Jean-Louis pourrait participer à nos débats. Je te remercie vivement parce qu'il sortait d'une intervention chirurgicale et il m'a dit en début de semaine, je vais me booster, mais je serai là. Merci pour ton intervention. C'est gentil. Et je reconnais là nos liens d'amitié que nous avons tissés depuis des années. Alors, je peux vous assurer, le connaissant, il a été calme. Il a été calme parce que je l'ai entendu des fois sortir un gros bazooka dans certaines instances parisiennes. Il se fait respecter et il porte très haut, vous l'avez compris, parce qu'il vous a parlé à sa manière, je ne vais pas employer le terme avec ses tripes, mais je sais qu'à Paris, il représente fortement le monde rural. Croyez bien, on a un bon défenseur. Merci, Jean-Louis.
Très franchement, je ne suis pas trop satisfait du résultat, vous l'aurez compris. Par contre, sur le plan osseux, c'est réglé. J'ai téléphoné ce matin à mon ami Didier Lacroix, président du Stade Toulousain. Je vais reprendre peut-être à l'automne.
Ah, tu es le joker médical. Bon, ceci étant, on va essayer de passer la parole à la salle avant que les personnalités interviennent. Alors, on vous écoute. J'attends au moins une des questions qui va être posée. Voilà. Je souhaite que tu poses ces questions, s'il te plaît.
Bernard Molon, maire de Garrigues. Vous avez cité que le président Barouin avait obtenu comme petit soulagement à notre participation au redressement des finances publiques que des dépenses de fonctionnement d'entretien de bâtiments et d'entretien de voiries deviennent éligibles au FCTVA. L'application qui a été faite de cette disposition est qu'il y a une condition, c'est que ces dépenses soient réalisées avec des prestataires. Or, il y a de nombreuses communes, les petites, comme vous l'avez dit, souvent ce sont les bénévoles qui passent la peinture, les bénévoles qui font tous ces petits travaux. Et il y a des collectivités plus importantes, qu'elles soient plus importantes ou communautés de communes, qui ont le personnel et qui font tous ces travaux en régie. Il se trouve qu'on est remboursé de FCTVA que sur les dépenses réalisées par des prestataires. Était-ce l'intention de punir le bénévolat des petites communes ? Était-ce l'intention de léser les communautés de communes et les communes qui réalisent ces travaux d'entretien avec leurs propres forces en régie ?
Réponds, Jean-Louis, s'il te plaît. Mon cher collègue, vous avez tout à fait raison. Je suis président d'un CIVOM encore en vie, qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en régie, y compris les pompes funèbres, etc. Et bien sûr que vous avez raison. Il faut que la TVA sur les fournitures puisse nous revenir, et j'interviendrai dans ce sens, bien sûr.
Tu as la réponse qu'on t'avait indiquée, mais je souhaitais que tu poses la question le jour du congrès. D'autres questions concernant la ruralité. Vas-y, mon cher président. Cantaloupe.
Oui, merci. Jean-Luc Antaloube, je suis le maire de Saint-Antonin-de-la-Calme, petite commune rurale, zone de montagne de 270 habitants, et la double casquette de président d'intercommunalité, en l'occurrence Centre-Tarn. Moi, je voudrais revenir sur deux choses qui ont été évoquées au début des interventions, et pour amener un témoignage, pour illustrer quelques situations qui sont parfois pour le moins cocasses. Vous avez évoqué la question des dotations, notamment la question de la DSR cible, et il se trouve que sur notre territoire Centre-Tarn, il y a une commune cette année donc qui se voit amputée de sa part de DSR cible, petite commune de 120 ou 130 habitants, la commune du Travet pour ne pas la citer, sans explication, et donc il se voit amputé de 20% de son budget. Alors on a essayé de chercher à comprendre, aujourd'hui il n'y a pas de réponse. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est par rapport à la DGF. En y regardant, quand on travaille un peu à l'échelle de l'intercommunalité, on a souvent évoqué la notion de pacte fiscal, et quand on se penche un peu sur les chiffres, on s'aperçoit quand même de situations qui sont particulièrement complexes. Et je prends un autre exemple, avec deux communes quasiment identiques, même population, même zonage géographique, il n'y a pas de question de zone pleine ou de zone de montagne. Vous avez pour une DGF à 1 et pour l'autre une DGF à 2. Alors on peut nous expliquer parfois qu'il y a l'histoire avec la voirie, comme vous l'avez évoqué, un certain nombre d'éléments, mais aujourd'hui plus personne n'est à même d'amener les éléments de réponse et d'explication. Et la difficulté, c'est que quand vous demandez des efforts identiques à l'ensemble de ces communes, comment voulez-vous fonctionner avec une commune qui a un en dotation et l'autre qui a deux? Et on lui demande le même effort. Donc en termes d'égalité, ça c'est quelque chose quand même qui est assez problématique pour nos secteurs. Le dernier point que je voulais évoquer, donc, c'est pour revenir sur le débat de la matinée, donc, par rapport à la ruralité. Maire d'une commune rurale, c'est pas moi qui vais dire le contraire du propos qui a été tenu. Bon, pour autant, j'appuie ce qui a été dit par l'interlocuteur précédent, c'est qu'on ne peut pas avoir deux discours. On ne peut pas d'un côté nous dire il faut impérativement maintenir la commune et mettre en œuvre au quotidien, tous les jours, la pratique inverse. À un moment, il faudra quand même donner de la clarté, de la lisibilité. Parce que derrière, ça nous amène à ramer, à essayer d'imaginer un avenir pour lequel voilà, on n'a pas de lisibilité. Je profite de l'occasion, je m'adresse à nos parlementaires, je ne sais pas si... Bon, ils ne sont pas nombreux, mais... simplement pour...
Il y en a au moins un.
Voilà. Donc, au moins au président Garcenac. Donc, par rapport à l'évolution législative, puisqu'on parle donc d'intercommunalité, on parle de communes nouvelles, pour y avoir un petit peu travaillé, un petit peu réfléchi du moins... Il y a une question qui revient assez régulièrement, c'est la question de la représentativité. Et je pense que si il y a une évolution à ce niveau-là, ça passera aussi par le traitement de cette question de la représentativité. C'est vraiment aujourd'hui ce qui fait débat sur des territoires comme les nôtres. Voilà, merci.
Tu veux rajouter, Jean-Louis, s'il te plaît, concernant le premier...
Sur la représentativité, oui. Mon cher collègue, c'est tout simplement énorme. Une petite anecdote... La ministre Le Branchu, avec laquelle j'ai ferraillé, m'a dit au bout du ferraillage, Jean-Louis, tu sais, je ne me reconnais plus dans ma loi. C'est juste anecdotique. Ça ne va pas, ça, la représentativité. Et mon collègue Richard, qui est à l'origine de la loi, le sénateur Richard, a osé me dire, j'ai pas fait attention. C'est pas vrai. C'est le poids de certains lobbying qui ont fait certaines choses. C'est très mauvais pour nous. C'est très mauvais pour nous. Très mauvais pour nous. Pour revenir sur la fiscalité, mais je ne suis pas sûr qu'on y revienne. Pour l'instant, je n'ai pas rencontré les représentants du nouveau gouvernement. Mais croyez-moi, on va les briefer. Ils sont en formation ce matin, on va les laisser digérer. Après, on va peut-être les former à notre façon. Un exemple qui est criard et que vous connaissez bien. Une petite commune rurale qui n'a pas de base fiscale importante est obligé pour faire le minimum, sans avoir de service de proximité, il n'y a pas d'épicerie, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de poste, pour faire le minimum, elle est obligée d'augmenter les taux, notamment le foncier non bâti. Les paysans n'ont pas besoin de ça. Notamment le foncier non bâti, parce que celui-là, on l'augmente, mais les bases sont faibles, donc ça ne rapporte pas beaucoup. La commune d'à côté, il se trouve que c'est la mienne, qui a la chance d'avoir un peu plus d'habitants, de l'ex-taxe professionnelle, à des taux beaucoup plus faibles, avec des services de proximité. Donc les citoyens de l'une et de l'autre sont évidemment désavantagés, ils n'ont pas de service. C'est à la DSR de compenser ça, c'est évident. J'espère qu'on va y arriver.
D'autres questions ? Jean-Paul. Ah, pardon. Vas-y.
Oui, bonjour. Je suis Jérôme Cros. Je suis élu d'une petite commune de 1800 habitants, donc proche de Mazamet. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre intervention, très claire et très intéressante. J'aurais trois petites remarques. Une première plus légère sur la question des seuils au niveau des élections. Ça nous a rappelé des souvenirs parce que nous, petite commune, nous sommes 19, conseil municipal. Et quand il a fallu monter l'équipe, forcément, on va chercher des habitants comme vous le faites tous, Jean-Michel, Martine, Jean-François, etc. Ben écoute, viens dans l'équipe, par contre, on sait que bon, il y a d'autres listes en face, forcément tu seras 19e, 17e, 18e, ben, tu seras avec nous, mais tu ne seras pas élu, parce que forcément, il y aura une opposition en face. Et je vous assure très bien, pour avoir fait plusieurs mandats, même quand on avait une même liste sans ce fameux scrutin de liste, on était capable aussi de s'opposer déjà entre nous. Hein. Donc on nous a finalement créé une opposition, en sacrifiant certains, puisqu'on demande à certains d'être des candidats sacrifiés, mais bon, c'est comme ça, et malheureusement, il a fallu s'y plier. Deux autres remarques un petit peu moins légères. On est en train de faire la révision du PLU. Je suis reconnu dans ce que vous aviez dit, puisque je suis adjoint sur l'urbanisme. Vous avez dit que vous deviez retirer 41 hectares, nous en avons 60. Donc on a fait deux réunions publiques, on fait énormément de rencontres avec les habitants. Ben forcément, c'est difficile. Difficile pour expliquer ce que vous avez dit, on dit que les droits ne sont pas éternels, mais bon, forcément, ça crée un certain nombre de problèmes. On a essayé d'alerter les services de l'État sur la problématique des zones à urbaniser. On aurait effectivement souhaité, comme vous l'avez dit, que ces zones ne soient pas comptabilisées dans le potentiel constructible. Ça nous semblait forcément logique, impossible. Donc on se retrouve avec des zones fortement réduites là-dessus, ben, qui nous posent, ben, en enquête publique, certainement des problèmes aussi à venir, de contentieux peut-être ou autre. En tout cas, on fera des mécontents, ça c'est certain. Ce n'est pas notre but, on n'est pas là pour faire gaspiller l'argent public pour urbaniser des zones qui n'ont pas lieu d'être, mais bon, il faut conserver un minimum de cohérence dans nos petits territoires. Le troisième point qui m'interpelle le plus, vous en avez parlé, Monsieur le Président, dans le début de votre discours, concerne les problèmes de désertification médicale. Aujourd'hui, j'ai deux enfants qui ont une dizaine d'années. Quand j'avais leur âge, il y a 30 ans, je n'avais pas Internet, je n'avais pas de smartphone, il n'y avait pas les Facebook et compagnie, mais on avait quatre cabinets médicaux dans notre commune. Aujourd'hui, le dernier va fermer ses portes en juillet. Fin juillet, avec mon téléphone portable, je vais appeler, je n'aurai personne. Avant, j'avais mon téléphone à fil, cadran, pas de problème. Le week-end, samedi, dimanche, j'avais un médecin au bout du fil et mes parents étaient certainement contents de la trouver. Alors, on est en train de culpabiliser les populations en disant bah, pourquoi les gens vont aux urgences, pourquoi ci, pourquoi là. Ben forcément, comment vous faites quand vous avez des gamins un samedi, un dimanche qui ont 39 de fièvre ou je sais quoi? Il n'y a plus rien, vous n'avez plus personne au bout du fil, donc forcément, vous engorgez les services qui sont là pour traiter autre chose. Malheureusement, on n'a pas le choix. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si les habitants vont de moins en moins se précipiter pour les élections. Ça fait 22 ans que je suis élu. Ça fait honnêtement 22 ans qu'on voit aussi peu de monde dans nos bureaux électoraux. Moins de 50% de population dans des communes comme nous, ça ne s'était jamais vu. Les seuls qui viennent vous parlent essentiellement de ces problèmes de cabinets médicaux. On en arrive même à certains où on vous dit, puisqu'on a commencé à faire le tour dans les cabinets voisins qui sont sursaturés, y compris sur des grosses villes comme ici ou Sion ou Mazamet, ben les médecins ne peuvent pas vous prendre, puisqu'ils sont déjà surbookés. Et certains vous disent... ah ben j'ai de la chance, je me suis fait pistonner, un tel me prend. On est en 2017, maintenant il faut être pistonné pour avoir un médecin traitant. Ben c'est bien triste. Merci.
Très bien. Sur ce point bien précis que j'ai évoqué effectivement, si tu le permets, je vais te dire ce que nous avons vécu sur notre territoire Sorée-à-Goutte. Je parle en présence de collègues qui sont dans la salle. À notre grande surprise, c'est le monde médical qui est venu vers nous. C'est parti des docteurs qui sont venus nous signaler effectivement qu'ils allaient être très rapidement confrontés à des départs à la retraite et donc se créer des secteurs où il n'y aurait plus de docteurs. Et ils nous ont demandé, à la communauté commune, de s'associer pardon, à leur démarche afin de créer cette maison médicale. On les a réunis, je vais le faire très court quand même, parce que, et à ma grande surprise, à notre grande surprise, nous avons découvert que le monde médical entre eux, les docteurs, ils n'ont pas le même raisonnement, ils n'ont pas la même approche. Je ne vous dirai pas ce qu'on a découvert, autrement dit, les salaires moyens des docteurs de notre secteur. J'étais très surpris. Ceci étant, il y a deux, le monde médical a sa responsabilité et les élus aussi, il faut qu'on sache si on peut répondre, si on veut répondre à leurs demandes. Ce n'était pas inintéressé de leur part parce que cette structure portée par l'Interco permettait au monde médical de bénéficier d'une aide non négligeable pour l'aménagement des locaux, etc. Très bien. Mais on a eu, je vous dis honnêtement, cette chance-là. Ce n'est pas nous qui avons plaidé ou essayé de chercher des docteurs, c'est eux qui sommes nous rencontrés pour dire qu'il faudrait faire cela, sinon tout ce secteur sera démuni. C'est une chance. Néanmoins, parlons avec les collègues de la montagne, Murat, Lacogne en dessus, c'est un autre problème. Et effectivement, comment attirer des docteurs dans certaines régions? Je vous prends un exemple. Je suis près de Soal. Soal, actuellement, il y a un cabinet médical. Dans 3 ans, il y a de Toubi, ils sont 3, 24 à l'état part, mais au cabinet médical, ils sont 3. 2 vont arrêter. Le troisième m'a dit, moi, c'est pas compliqué, s'il n'y a personne, Soal, hein, s'il n'y a personne qui reprend à côté, moi, je décroche la plaque et je vais à Castres. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on est, à un certain moment, on est un peu démunis. Comment attirer les docteurs chez nous? Moi, je sais ce qui s'est passé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour attirer quelqu'un à Lacogne, je sais l'effort qui a été consenti. Est-ce que tout le monde est prêt à faire cela? Je n'en sais rien. Mais néanmoins, je te rejoins. Moi, j'ai découvert que la pratique médicale d'il y a 20 ans en arrière ou 30 ans, ça n'a plus rien à voir avec la génération de docteurs actuels. Alors, sommes-nous prêts à les écouter ou à les entendre? À nous de voir. Mais je l'ai vécu, ce que tu as dit, je te mets à l'aise. Autre question.
Sylvain, juste un complément, peut-être.
Oui, vas-y.
Par rapport au problème que tu soulèves, c'est une chance pour les zones de montagne et les zones isolées d'avoir des services de secours et d'urgence de qualité. Parce que ça fonctionne bien et ça sauve énormément de personnes quotidiennement. Je pense aux SDIS et au SAMU. Par rapport à l'urbanisme et au PLU, j'utilise un artifice dans ma commune. Bien sûr, sur le PLU, on ne doit pas être la deuxième catégorie de zone AUD, on ne peut pas les mettre, quoi. Mais rien n'empêche de colorier dans la présentation aux habitants une zone AUD que l'on définit, nous, qui ne doit absolument pas faire partie du PLU et qui est apaisante. Hein. Le bureau d'études, mon bureau d'études le fait.
D'autres interventions? Tu donnes le micro, s'il te plaît.
Oui.
Amila.
Jean-Paul Guiraud, le maire d'Escoussins. Ma question, c'est un rappel d'abord. Nous sommes quelques-uns ici à avoir connu les anciennes républiques, du moins l'avant-dernière. Et à l'époque, dans le Tarn, il y avait 3, puis 2 sous-préfectures. L'agrandissement des intercommunalités qui est imposé, est-ce qu'il est prévu de retrouver l'ancienne organisation départementale de l'époque? Deuxième question subsidiaire, comment faire à Paris, et là je m'adresse donc à notre ami, pour qu'on puisse leur faire comprendre que quand il y a une organisation qui marche, pourquoi la supprimer? Merci.
Chers collègues, je suis obligé de revenir à mon constat d'échec, j'y suis pas parvenu. Et je le regrette énormément. Et je vous ramène peut-être à quelques réflexions que j'ai faites sur le déficit budgétaire de l'État, sur les moyens de le combler et réduire la fiscalité d'État, malheureusement.
Cher Jean-Paul, je t'ai bien compris. Tu as évoqué les deux anciennes sous-préfectures. Tu serais donc partisan de restaurer les anciennes évêchés ou quoi? Rassure-moi, venant de toi, je suis surpris. Je ne comprends pas ta question. Je plaisantais. Y a-t-il d'autres interventions dans la salle? Sinon,
juste pour reprendre un fait historique, mon cher collègue, tu as parlé de République antérieure. Il faut savoir qu'il y a encore plus longtemps, il y avait un consul pour de nombreuses communes. Il n'y avait plus de maire. Espérons qu'on n'y revienne pas, quand même.
Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture.
Oui, merci Sylvain. Bonjour à tous. Donc Jean-Claude Huc, président de la Chambre d'agriculture. Donc je ne suis ni maire, ni même élu communal. Ah non, Sylvain, je ne suis ni maire, ni élu communal, je répète.
Parce que tu n'as pas voulu.
C'est possible. Mais je me suis attelé à une autre tâche, celle qui est de représenter ce monde économique. Alors, je ne sais pas comment vous vivez ça. J'ai compris que vous étiez élu de l'Haute-Garonne. Comment vivez ça dans votre département? Je pense qu'à notre département, où les parlementaires présents ici sont tout à fait conscients de la chose, monsieur le préfet aussi, je pense. Voilà, cette première force économique, et je regrette qu'on ne la mette pas plus souvent en avant, qui est la seule force qui est présente sur toutes les communes du département, et je défie un seul maire de la commune de me dire « j'ai pas de paysan chez moi ». Il n'a certes pas d'entreprise ou d'artisan, mais un agriculteur, c'est sûr qu'il en a un. Donc voilà, je voulais remettre cette ruralité, cette activité économique au centre du débat, et dire simplement que voilà, le travail qu'on fait dans ce département autour des circuits courts, avec les communautés de communes, avec les marchés de producteurs, avec la réflexion sur des conventions avec collectivités locales pour l'approvisionnement de cantines, de maisons de retraite et autres, fait qu'on participe activement au maintien de cette ruralité partout dans le département. Vous avez parlé de l'urbanisme. Voilà, on a à la Chambre de culture du Tarn un service qui aujourd'hui est en appui auprès des collectivités qui le souhaitent pour faire le diagnostic agricole dénué de tout intérêt partisan. J'ai malheureusement vu quelques conclusions de bureaux d'études de temps en temps qui me laissent dire que l'intérêt n'est pas le même pour tout le monde. Et je veux dire par là que, rappeler ici que voilà, la Chambre d'agriculture dans le département du Tarn travaille au fait que on doit faire un état des lieux qui est objectif et qui vous serve, vous, à prévoir l'avenir. Parce que votre boulot est surtout de prévoir l'avenir, de voir ce qui va se faire dans les années à venir. Après, certainement que dans les révisions de documents d'urbanisme, il y a toujours un content et au moins deux ou trois mécontents, parce que c'est souvent le cas. Mais je voudrais, avant de conclure, redire, voilà, ce tissu rural existe parce que l'Europe, parce que l'État met les moyens à ce qu'il existe. Aujourd'hui, on est en train de vivre dans ce département du Tarn une révision des crédits européens par l'intermédiaire des révisions de zones défavorisées, où toutes les communes du département étaient éligibles à ces fonds-là. Aujourd'hui, 34 ou 37, je ne me rappelle plus le chiffre exact, n'est plus éligible dans des endroits, quelques-unes au nord de Gaillac, parce qu'il paraît que la vigne et le vin rapportent trop. J'ai vu quelques élus locaux, mais je pense qu'ils comprendront. La commune de Sylvain, est pas, au milieu des autres, n'est pas classée. Pourquoi ? J'en sais rien. J'espère, quand vous serez à Paris, Monsieur Puységur, que vous saurez dire, voilà, des départements communaux doivent être traités dans leur intégralité et pas point par point, parce que tel critère technique, tel critère administratif fait qu'on ne va pas classer. Donc c'est une absurdité totale et je pense que l'avenir de notre réalité en dépend. Voilà, je voulais simplement finir en disant, alors j'ai bien entendu votre allusion sur le zéro phyto, la difficulté, mais j'avais alerté quelques maires il y a quelques temps sur la difficulté qu'ils auraient, et je ne suis pas sûr que le bilan soit positif quand on utilise des bonbons de gaz pour brûler de l'herbe, surtout si elle repousse. Mais bon, je suis content parce que quelques années après, je m'aperçois que ce que disait, alors peut-être pas le président de la Chambre d'agriculture à l'époque, mais le président de la FDSEA du Tarn à ce moment-là, leur avait fait la remarque, bon, mais j'aimerais d'ailleurs que ces gens-là interviennent aujourd'hui pour nous dire que ben, ce qu'on avait dit peut-être avant les autres était peut-être vrai. Redire pour finir que, voilà, donnez-nous les moyens et donnez-vous les moyens de protéger ces acteurs de territoire qui existent aujourd'hui, dont malheureusement pas grand monde parle, mis à part pour dire de temps en temps, chose qui est complètement fausse, qu'ils ont voté extrême pour les élections, parce que malheureusement on l'entend, et je peux témoigner que c'est certainement pas vrai, et surtout nous donner les moyens de faire vivre ces gens, ces hommes et ces femmes qui le matin se lèvent tôt et qui allument la lumière de bonheur. Merci.
Très bien.